Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Il existe au sein de l'œuvre de secours aux enfants un service dédié à la génération de ceux qui étaient enfants pendant la Seconde Guerre mondiale et ont survécu aux persécutions. Ce service, que beaucoup de nos auditeurs connaissent et sans doute même fréquentent, s'appelle Écoute Mémoire Histoire. Ce service qui reçoit le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah propose traditionnellement des groupes de parole ainsi qu'un accueil appelé Pause Café. Il est ouvert 3 à 4 après-midi par semaine. Il offre aux rescapés de la Shoah un lieu de vie chaleureux avec beaucoup d'activités où la parole circule en toute confiance. C'est pour nous parler d'écoute mémoire histoire. Nous avons convié Hélène Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue à Lausée. Et Fabienne Hamson, bonjour. Vous êtes la chef du service, donc écoute mémoire histoire. Ma première question sera pour vous, Hélène Lévy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte de la création de ce service et les objectifs qui étaient initialement poursuivis ?
Alors bon, c'est une longue histoire. Elle n'est pas si vieille que ça, c'est vrai, mais elle a quand même plus presque 20 ans maintenant d'histoire. Nous étions au moment où Spielberg avait fait son film La liste de Schindler. Il a décidé donc de faire le maximum d'appels à des témoignages, donc à des anciens, des personnes déportées, mais aussi tous les rescapés de l'histoire de la destruction des Juifs. Et pour cela, il a fait appel à une organisation américaine, d'abord qui avait commencé elle-même à faire des recueils de témoignages en France, qui s'appelle Fortunoff ou Yale University, et dont il y avait une branche ici, qui s'appelait, alors que j'essaye de me rappeler, parce que j'ai essayé de me... Témoignages pour mémoire, voilà, où il y avait Madame Vivorka, Madame Dra, Madame Ventrater, j'ai peur d'oublier, il y a
donc
d'autres
c'est
noms.
C'est l'ancêtre, en quelque sorte,
De Spielberg.
De MH.
Voilà. Non, c'est pas l'ancêtre, en fait. C'est l'ancêtre des recueils de témoignages. Quand ils sont arrivés ici, il y avait un véritable vide. Il faut le dire, il y avait très peu de lieux, à part les associations d'anciens déportés et le petit groupe de gens, d'enfants cachés, qui étaient restés très proches de Lausée, parce qu'ils avaient vécu dans ces maisons d'enfants. Mais pour beaucoup, ils s'étaient dispersés à cause de leurs conditions de vie après la guerre. Donc, ce qui fait qu'il y avait vraiment un manque. Et au moment où on a commencé à recueillir des témoignages, il n'y avait personne pour recueillir ces personnes qui, après coup, avaient besoin peut-être de maintenir un lien, d'être écoutées. Voilà. Donc, c'est là que en particulier le docteur Cohen de Lausée, beaucoup d'assistantes sociales de Lausée ont fait appel effectivement aux personnes qui avaient fait les témoignages, donc nous-mêmes intervieweurs, pour que nous puissions envisager un lieu où on pourrait écouter ces personnes. Et ça a été fait de manière très bénévole avec l'aide du CDJC aussi, et même du COJASOR si je me rappelle, parce qu'il faut quand même rendre à chacun sa mémoire justement. Et voilà, et c'est comme ça que nous avons eu finalement un petit espace. Ensuite est arrivé donc Chirac, la commission Mattéoli et la Fondation de la mémoire qui nous a permis de pérénisé cet espace. Je pense que j'ai beaucoup sauté d'étapes, mais entre autres, c'était ça. Toutes ces personnes étaient très isolées, très seules, et qu'il n'était plus question qu'elles ne puissent plus être ensemble, se parler, raconter, témoigner, faire des liens avec d'autres. Enfin, c'était vraiment ce silence qui avait été tellement fort, tellement installé dans leur vie, qu'à la limite, pour certaines, c'était une véritable difficulté le jour où elles voulaient témoigner, mais en même temps, c'était impossible. Je veux dire, c'était vraiment de permettre, enfin, que tout le monde les écoute, pas seulement la famille, des proches, mais tout le monde, et qu'elles puissent être avec d'autres surtout et partager avec les autres.
Et il y a une prise de conscience d'ailleurs, car cette génération ne se considérait pas comme survivant.
Non, ils se vivaient comme des survivants, mais ils n'osaient pas parce qu'il y avait effectivement ceux qui étaient dans des lieux spécifiques, anciens déportés, et même pour eux, c'était, je ne dis pas que la vie était plus simple, mais il y avait une forme de reconnaissance parce qu'ils étaient reconnus aussi, ils avaient des réparations. Enfin, il y a beaucoup d'aspects différents, hein, je veux dire, entre ceux qui venaient de Pologne directement, ceux qui étaient déportés depuis la France, les déportés qui étaient plutôt politiques. Enfin, ça, c'est tous les enjeux que nous connaissons encore aujourd'hui et des tensions qu'il y a pu avoir. Donc, il fallait un lieu au moins pour que chacun puisse se sentir aimé, presque c'était de l'ordre vraiment d'un regard de, comme on dit aujourd'hui, de bienveillance, je dirais, et d'écoute, parce que vous savez bien que longtemps on a dit, le geste ne se voit pas, mais on demandait aux gens de, quand ils voulaient parler, moi j'ai souffert plus de toi, ou alors on sait, tu n'as pas besoin de raconter. Enfin, il y avait toujours ce genre de discussion.
En fait, le mot écoute du service Écoute Mémoire Histoire est toujours très actuel, parce que cette parole que les personnes ont eu difficile à exprimer juste après la guerre ou un peu plus tard, elle reste toujours quelque part difficile à sortir. Alors nous, en fait, on crée des prétextes ou des échanges pour que les personnes puissent arriver à parler en toute confiance. Parce que ce lieu, il est vraiment dédié uniquement à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés par la Shoah. Et également à leurs familles, aux enfants et aux petits-enfants de survivants de la Shoah. Donc, cet échange, ces paroles qui peuvent être exprimées, les personnes savent que l'autre le comprend, peut de suite resituer le contexte. Et donc, c'est une faculté, une liberté pour les personnes qui existe a priori nulle part ailleurs.
On pense à l'expérience israélienne d'Amcha.
Ils peuvent soit apprendre du yiddish ou faire d'autres activités. Et puis, il y a des thérapeutes qui sont là et qui assistent en fait à ces activités sans que ça apparaisse directement comme un travail thérapeutique. Et après, si les gens le souhaitent, ils peuvent aussi avoir des rendez-vous individuels ou des groupes de parole. Et on a l'impression que votre service, il y a quelque chose d'un peu proche, même si...
Très proche. Parce qu'il y a beaucoup d'activités. Hein.
Juste pour revenir à Shalvata, par exemple, en Angleterre, Amcha dont vous parliez, Shalvata, donc, qui était un service aussi qui existe antérieurement au nôtre, bien sûr, que nous avions visité et où justement tout l'aspect thérapeutique était vraiment discrètement posé là, parce qu'il y avait toute cette question que ces personnes-là ne sont pas affectées d'une quelconque, enfin comment dire, d'une maladie ou d'une folie, voilà. Donc il fallait considérer que c'était avant tout une véritable histoire collective et que c'était ça que nous devions prendre en considération. Alors quand nous sommes arrivés à avoir un espace, c'est vrai que d'abord c'était des groupes avant tout. Ça a commencé avant par des groupes de parole, des groupes conviviaux, mais surtout des groupes de parole de première génération. Donc quand on dit première génération, ça veut dire ceux qui étaient directement dans cette période-là, mais ce sont pas des... Enfin, ils ont eu des parents et des grands-parents, donc toute la question du mot première est toujours très difficile. Et ensuite, petit à petit, on a eu un local, parce qu'au début, on n'avait pas de local. Et ensuite, on a eu un local, et là, on commençait à être mis en place d'autres activités.
Est-ce que vous pouvez dire un mot, peut-être, oui. Fabienne Hamson, des activités
En fait, ces activités
sont proposées.
Les activités, je dirais, ce sont des activités que les personnes dans lesquelles elles peuvent se reconnaître, autour de l'histoire, autour du yiddish, autour de la musique qu'elles apprécient, autour des recettes de cuisine, et je veux dire, ou autour des livres, là j'en sors de notre cercle de lecture, mais finalement de ces activités, c'est pour ça que je dis c'est des prétextes, parce que c'est
des supports, quoi, en quelque sorte.
Les personnes se retrouvent donc autour de cette activité, mais cette rencontre va pouvoir se faire une parole, raconter son histoire, donner son opinion par rapport à une situation actuelle. Comme je parlais tout à l'heure de cette liberté de parole, parce que justement, puisque chacun a ses mêmes codes pour décrire leur vécu, donc il y a des réels échanges vraiment, je dirais, très profonds, et qui unissent les gens. Donc il se développe un vrai lieu de vie où ils se retrouvent autour d'une activité et où ils vivent vraiment des moments de satisfaction. Et alors je dis effectivement, ça a un effet secondaire thérapeutique, dans le sens qu'ils se sentent mieux d'avoir passé une après-midi en discutant d'un livre et en parlant de leur histoire et en échangeant avec l'autre. Les relations avec les autres, c'est quelque chose aussi que je trouve assez étonnant. Se crée une solidarité même entre les personnes, parce que elles se sentent, de ce qu'elles ont vécu, elles se sentent finalement très très proches.
Et elles sont isolées, enfin, je veux dire, parce qu'elles ont vécu.
Alors la plupart des
à cause de ce qu'elles ont vécu.
La plupart des personnes
dans une situation aussi d'isolement.
La plupart des personnes. La plupart des personnes, donc, du fait qu'ils ont perdu une grande partie de leur famille, du fait aussi qu'ils ont eu un vécu compliqué avec leurs enfants, donc effectivement se retrouvent seuls. Et donc pour eux, évidemment, c'est très très important de pouvoir créer des liens avec les personnes et rompre cet isolement. Qui est effectivement problématique, puisque une personne seule est en général pas bien.
Alors, parmi les ateliers, là, j'en vois un au titre, je trouve, qui est éloquent. Chaque famille juive est un roman, une rencontre. C'est un groupe de parole avec l'idée.
Alors c'est un groupe de parole, disons informel.
De parler de la vie d'avant, peut-être.
Nos groupes de parole, donc, normalement, sont très structurés. Mmh. Donc les personnes se rencontrent une fois par mois et évoluent dans le temps sur un travail sur elles-mêmes et avec le groupe. Et là, c'est une activité où les personnes viennent si elles ont envie de venir. Et là, on touche le troisième mot de notre service. Donc on veut que chaque histoire de la personne.
Mémoire, histoire.
Donc. Voilà, que chaque histoire de la personne soit reconnue, chaque histoire est individuelle, à sa place, et les échanges autour de ces histoires sont pas toujours que liés d'ailleurs à la Shoah. C'est peut-être des moments intimes ou des rencontres au cours de leur vécu, mais c'est toujours très riche et très animé.
Alors Hélène Lévy, on voulait aussi revenir un petit peu sur le recul, sur ces groupes de parole depuis 20 ans. Quelles sont les évolutions que vous avez pu observer dans ce qui se passe dans ces groupes, dans les problématiques ?
Alors il y a une évolution parce que le temps fait que les âges, les gens grandissent. Malheureusement, nous avons eu beaucoup de disparitions, de décès aussi. Nous avons, au début, si vous voulez, il y avait un mélange, si je puis dire, entre des personnes qui étaient des enfants au moment petits pendant la guerre et des personnes très jeunes, mais déportées ou plus ou moins même déjà adultes, mais enfin un adulte vraiment jeune majeur à l'époque. Donc ce qui donnait que les liens étaient vraiment très forts entre ceux qui avaient été là-bas, si je puis dire là-bas, et ceux qui étaient restés et qui avaient perdu leurs parents. Ce qui fait qu'il y avait un vrai travail de parole et d'échange, et certains prenaient une place à la fois d'ascendant et pour d'autres de descendant. Donc il y avait vraiment comme quelque chose de fraternel qui se créait, et même si ça se passait avec des moments de dispute, de tension, mais les ruptures de leur vie pouvaient là un peu s'arrondir. Et puis maintenant, on est à un autre moment. Donc, on trouvera plus des gens qui sont à la limite de nés juste après la guerre ou juste pendant, et des gens qui sont nés à peine quelques années ou disons 10 ans. Donc, c'est très différent, les échanges sont plus difficiles. Moi, c'est vrai que mon expérience aujourd'hui n'est plus la même, parce que je peux plus parler comme d'autres de mes collègues pourraient le faire sur ce qui se passe aujourd'hui pour pour les personnes qui sont encore des, enfin, je veux dire, qui font des groupes de parole d'anciens enfants, comme on dit, anciens enfants cachés. Je veux dire, voilà. Moi, je suis maintenant beaucoup plus avec les enfants nés. Enfin, les enfants sont des grands adultes nés après la guerre et donc qui ont une autre, d'autres questions, bien sûr. Eux, c'est plutôt du côté de l'appropriation, d'une certaine manière, de leur histoire et en même temps d'en faire autre chose de cette histoire puisque c'est pas une histoire qu'ils ont vécue. Et ça, ils commencent pour certains seulement à le comprendre parce qu'ils ont été tellement pris là-dedans. Ils ont été tellement pris dans cette histoire qu'ils ne savaient plus qui était qui. Je le raconte d'une manière grossière à chacun, sachant bien l'âge qu'il avait, mais quelque chose se mélangeait de cette confusion d'être avec des parents qui ont tellement eu peur et qui ont été tellement confrontés à la mort que pour eux, la mort, c'était quelque chose qui faisait partie aussi de leur vie et de la perte. Mais en même temps, eux-mêmes ont des pertes de gens qu'ils n'ont pas connus, mais c'est des vraies pertes. Ils n'ont aucun ascendant pour eux. Pour certains, il n'y a pas d'ascendant, il n'y a pas de tante, il n'y a pas de grand-père. Donc, il y a une perte, mais inconnue, puisqu'il y a eu silence. Donc, voilà. Donc, c'est plus ce travail que, ici, maintenant, certains d'entre nous font, certaines d'entre nous, parce que nous ne sommes que des femmes psychologues actuellement. Et sinon, ce que j'aimerais bien évoquer, c'est aussi la demande du travail d'écriture.
Ah oui, ça, voilà. On avait prévu de le... De l'évoquer justement, parce que donc vous avez lancé des groupes d'écriture collective déjà.
Voilà, alors on a
années.
Deux collègues qui font du travail d'écriture collective, effectivement.
Qui débouche d'ailleurs, je le signale, sur certains témoignages donc sont publiés dans la collection de la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui s'appelle Témoignages de la Shoah.
Il y a deux approches. On a donc un groupe appel de parole à l'écriture, donc effectivement un travail qui est mené par Elena Adam et Gladys Patron, donc deux psychologues, et qui donc aident les personnes à arriver à écrire quelques bribes et au fil du temps, tout un travail comme ça d'appropriation, de mise en confiance. Les personnes lisent à chaque rencontre, elles lisent quelques lignes de ce qu'elles ont élaboré précédemment. Et donc, effectivement, là, il y a tout un processus qui se met en place. Et là, de ces travaux d'écriture, libre à la personne d'en faire ce qu'elle veut, elle peut le diffuser auprès de ses proches, de ses enfants, ses petits-enfants, ou bien plus tard effectivement élaborer un manuscrit. Mais il n'y a pas vraiment l'idée comme elle, l'approche plus individuelle, dont Hélène Lévy va faire un petit historique aussi, parce que c'est quelque chose qui a démarré très très vite avec le service, avec Geneviève Pichon.
Oui, alors là, c'était vraiment déjà aussi avant même que nous soyons vraiment pérennisés. Il y avait la présence de Madame, enfin, il y a toujours d'ailleurs sa présence, mais moins. Voilà, de Madame Geneviève Pichon, qui s'est vraiment dédiée au travail d'écriture. Alors vraiment, ce serait bien que ce soit elle qui en parle, qui a fait un véritable travail avec des personnes qui avaient écrit quand même, qui avaient déjà quand même, en général, une de ses exigences, c'est qu'il y ait quand même du contenu, un texte, c'est pas elle qui écrivait pour eux, c'était vraiment ce qu'elle précisait bien. Mais elle les aidait, et surtout, elle faisait des recherches avec elle corriger le texte, et toujours en précisant bien que c'était pour eux, il n'était pas à ce moment-là question d'éditer, parce qu'il y a toujours eu cette question qui pourrait aussi être un sujet publié, désirer que ce livre participe du patrimoine, de l'écriture, enfin de cette histoire, de l'histoire. Voilà.
En quoi c'est important pour ces personnes le travail d'écriture, voire même d'être publié?
Je pense que déjà c'est pour elles une forme de reconnaissance, et je dirais même de réparation. Pour ceux qui ont disparu aussi du passé, de la restitution, de les rendre vivants, de les garder vivants, de leur donner vraiment une place. Enfin, comme le magnifique, enfin ça n'a rien à voir, mais le magnifique travail qu'a fait Monsieur, et Madame Klarsfeld, quoi. Je pense, c'est du même ordre, c'est pouvoir donner
un nom, une histoire.
Voilà, et aux parents, aux frères, aux sœurs.
C'est même jusqu'un soulagement. Là, il y a un livre qui a été intitulé, je crois, 2 mètres carrés. Qui était l'équivalent de ce qu'aurait pu être une pierre tombale. Mmh. Donc le fait de pouvoir déposer son témoignage, de nommer les personnes disparues, de retrouver les origines, les villages, enfin, ou le village où vivaient les parents ou les grands-parents. Donc il y a une sorte vraiment de soulagement de voir que toutes ces choses-là sont inscrites.
Mmh. Le livre comme tombe, en quelque sorte, oui. Symbolique ou...
Geneviève Pichon avait évoqué ça un jour. C'est vrai que c'est quelque chose de très lourd.
Oui.
Il y a ce processus-là d'avoir... se recueillir.
Qui est là, oui. Oui, c'est vraiment faire, je pense, pour tous. Et puis, il y a la question vraiment du témoignage, qui est une véritable question, pouvoir laisser quelque chose... sur cette histoire, et donc pas que pour soi, pas que juste donc que tout le monde puisse le partager.
Vous sentez que ça leur fait du bien personnes, enfin, d'écrire, ou même de façon plus générale, est-ce que les bénéficiaires de ce programme, vous avez l'impression qu'elles vont mieux
L'objectif.
C'est l'objectif, en tout cas.
L'objectif est d'aider, d'accompagner. Moi, je pense au travers en tout cas, des activités qui se déroulent chaque après-midi. C'est ça l'objectif le plus simple, le plus primaire, c'est qu'effectivement, elles passent du bon temps. Avec tout ce qu'elles ont comme souffrance intérieure, ben, au moment où elles se trouvent là ensemble, il y a une sorte de dynamique qui se crée et qui aide la personne. Certainement.
Mais par rapport au livre, vous parliez particulièrement.
Oui, au livre et puis au-delà.
Je pense que c'est bien le but, hein, de pouvoir quand même avoir quelque chose qui se clarifie. Mmh, quand même.
Se réapproprier aussi son histoire, oui, dont on a été dépossédé finalement.
Et puis se séparer aussi. Il y a une histoire de séparation. Mmh, quand même.
De deuil aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. On ne prononce pas ce mot tout souvent, ce mot, et pourtant il est bien présent. Absolument. C'est vraiment faire un travail de séparation et puis aussi redonner effectivement une forme de tombe. Enfin, c'est toujours difficile à dire pour ceux qui ont disparu. Puis c'est la question de toujours d'histoire d'amour, quoi, entre ses frères, ses sœurs, cette culpabilité qui finalement, on dit que c'est de la culpabilité, mais on n'a pas toujours le mot qui correspond, mais d'être toujours là vivant ou de croire qu'on a abandonné quelqu'un au moment où on aurait pu encore le prendre, l'avoir laissé là au bord de la route, ou d'avoir pas eu le geste qu'il faut, enfin, toutes ces questions-là. C'est vraiment la question du temps suspendu, tout le temps qui se pose pour eux, pour beaucoup de ces personnes, pardon, je ne vais pas généraliser, mais voilà.
Et qui se passe beaucoup aussi, je suppose, dans les groupes de parole, là encore, hein, pas que par rapport à l'écriture, puisque l'écriture, c'est l'aboutissement ultime, voilà, mais avant d'arriver à l'écriture, pas tout le monde n'a forcément vocation à l'écrire, mais oui, au moins d'en faire quelque chose, et parfois la parole ou juste les échanges peuvent aider à au moins déjà se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ce que vous dites, là, ce temps suspendu, ou cette culpabilité, effectivement, ce mot est peut-être pas le bon, mais en même temps, c'est ce que les gens ressentent, une espèce de culpabilité diffuse, dont on ne sait pas toujours la nommer, en fait.
Oui, et qui, bon, après, il faudrait pouvoir la chercher, lui donner un fil et qui pourrait justifier ce mot, ou au contraire dire qu'il est totalement, qu'il ne correspond à rien et que c'est autre chose dont il s'agit. Mais en tout cas, pour ces personnes, c'est être ensemble, que ce soit pour les anciens enfants cachés ou pour que ce soit pour des personnes nées après la guerre, le fait d'avoir cette familiarité, cette intimité, c'est déjà quelque chose qui les remet dans une reconnaissance, donc une chaleur, une réparation, enfin une forme de réparation de tranquillité, d'apaisement. Ça ne sera jamais linéaire, mais bon, c'est comme ça. C'est...
Quand on évoque la tisser des liens, je pense aussi, là, on a donc, il y a fait plusieurs années qu'on travaille avec des groupes de parole de personnes nées après la guerre, et maintenant dans les activités de l'après-midi, donc des personnes, des jeunes retraités, qui font aussi cette démarche de venir partager des moments de parole avec les anciens, c'est aussi pour recréer des liens qui ont été coupés et qui n'ont pas eu avec leurs propres parents ou qu'ils auraient bien voulu tisser. Et les personnes sont là en demande de s'inscrire dans ce...
Alors, je voulais pour finir aussi profiter pour annoncer que l'OSE a mis en place un dispositif d'accompagnement individuel des survivants de la Shoah. Puisque là, donc, c'est des groupes collectifs, de groupes de parole. Donc, c'est un service de psychothérapie individuelle gratuit. Bon, c'est pas... loger dans Écoute Mémoire Histoire, mais je voulais quand même.
Oui, en fait, bon, c'est les objectifs. Tenir
informés les auditeurs.
Les objectifs sont identiques. Oui. C'est d'essayer donc de répondre aux questionnements des personnes. Alors, il est clair qu'évidemment, maintenant, qu'on pourrait parler de l'évolution aussi, c'est que les personnes étant plus âgées n'ont pas toujours peut-être la patience de pouvoir travailler en groupe et préfèrent effectivement avoir une aide plus individualisé, et donc on a ce service là qui s'est créé tout récemment et qui
avec une demande quand même depuis de longues dates.
Oui, c'est vrai que c'est
peut se dérouler à domicile. Merci Fabienne Hamson, merci Hélène Lévy. Je rappelle que nos auditeurs intéressés donc peuvent venir vous voir 19 rue du Pont aux Choux à Paris dans le 3e, ou vous contacter au 01 44 59 35 62.
Nous vous remercions beaucoup aussi.
Merci.
Merci. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.mémoirevive.net ou radio-rcj.info.